A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
C'est qui? Qui? C'est qui Kina Studio?
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeans Podcast de la saison 2. C'est probablement un des derniers de la saison. Toutes les bonnes choses ont une fin. Jeans a toujours voulu opérer cette révolution de l'amour dans le monde arabe. Donc merci encore aux organisatrices de l'Institut du Monde Arabe et aux productrices chez Kikina Studio. Alors depuis ses premières heures jusqu'à aujourd'hui, le cinéma maghrébin a tergiversé entre un réalisme assez transgressif des corps nus interdits et le formalisme d'objets, d'images, de mise en scène qui ont reproduit symboliquement la sexualité, qui l'ont parfois même cachée. Moi, ça m'a toujours fasciné, j'ai écrit mon mémoire dessus. J'ai découvert qu'il existait une esthétique propre au cinéma maghrébin, parfois une géométrie des corps, une esthétique particulière. Et aujourd'hui, il va s'agir de comprendre comment les sexualités à l'écran sont sorties de leur invisibilité pour être représentées. Dans les contrées à dominance musulmane, juste pour que vous sachiez, entre deux personnes éprouvant du désir l'une envers l'autre, il y a une limite spatiale qui trace la frontière de l'interdit du désir. Cette démarcation est définie par le concept islamique de aura. En arabe, la aura, ce sont toutes les parties intimes du corps à dissimuler au regard de l'autre. Étonnamment, l'étymologie du mot aura en arabe, ça veut dire la cécité, l'aveuglement. Et donc, c'est à la fois l'œil crevé, la cécité, et la partie intime. Donc, pour ne pas agresser l'œil masculin d'une sorte de nudité intempestive, féminine, qui serait insupportable à la vue, eh bien, les corps féminins au cinéma sont montrés comme en réalité drapés, enveloppés, soit par des habits tout simplement, soit par des haïks, des hijabs, des djellabas, des niqabs, etc. Alors ce voile, il met en scène et en même temps, il cache. Donc, il y a vraiment cette question-là de l'invisibilisation et de l'hypervisibilisation en même temps qui dénote une obsession en fait, politique qu'on a pour les corps féminins. Le corps se fragmente sur le grand écran. On voit des corps qui prennent forme, des corps informes, des corps difformes, des corps hors normes, des corps nus, dénués de sexualité, et des corps voilés qui sont sexualisés à outrance. On voit des corps queer et des corps trans. On voit des corps enfermés dans un regard. On voit des corps libérés par l'amour, des corps transgressifs qui font bouger les lignes, qui nous donnent le vertige. Des corps de femmes qui sont ronds et vibrants, des corps d'hommes qui sont rectilignes, dressés. On voit des corps fragmentés par le montage, des corps qui sont castrés par le cadrage, des corps qui sont même mutilés par le récit parfois. Il y a des corps et encore des corps qui racontent à la fois un décor et des désaccords. Alors pour beaucoup de réalisateurices maghrébines et maghrébins, ils se sont et elles se sont battus corps et âme pour porter à l'écran des figures corporelles qui sont marginales, qui sont mineures dans les récits. Il y a donc une nouvelle posture du cinéma maghrébin aujourd'hui qui consiste à développer une approche anti-hégémonique, anti-normative, pour créer des espaces de résistance où les corps, et particulièrement les corps féminins et les corps queer, deviennent des espaces révolutionnaires. Ce sont ces corps qui font la révolution. Alors, comment les corps sont montrés à l'écran? Comment ils sont représentés? Comment les sexualités sont représentées aussi? Est-ce que le corps peut s'affranchir de la représentation sexuelle juste pour être un corps? Et est-ce qu'on peut réinventer le regard qu'on porte sur ces corps-là, maghrébins en particulier, par-delà l'hétéropatriarcat, par-delà l'orientalisme qui provient de la colonisation, par-delà le dogme islamiste et par-delà tout simplement le regard masculin traditionnel? Alors, pour répondre à ces questions aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir avec vous Nadia Moknesh.
Merci.
Bonsoir Nadir.
Bonsoir.
Alors Nadir Moknesh, pour vous présenter très brièvement, vous êtes réalisateur et scénariste. Vous êtes né de parents algériens. Vous appartenez à la deuxième génération d'immigrés. Vous avez consacré votre travail d'ailleurs cinématographique au départ à l'exil. Vous avez poursuivi d'abord des études de droit, puis d'art dramatique au Théâtre National de Chaillot. Vous passez du temps à New York, vous avez fait vos premiers courts-métrages, on va en parler. En 2003, vous avez réalisé « Vive l'Algérie », qui propose une plongée dans l'âme algérienne, pétrie de contradictions, bien sûr. En 2007, c'est également « Sans concession et avec humour » que vous avez dépeint l'Algérie, avec Delice Paloma. En 2017, vous réalisez « Lola Pater », l'histoire donc de ce jeune homme, Zino, qui a perdu sa mère et qui est en quête d'identité personnelle, qui retrace les pas de son père, Farid, qui vit en fait depuis 25 ans son identité de femme, qui a été incarnée par Fanny Ardant à l'écran. Et alors votre nouveau film, qui sortira en 2023, votre film « L'air de la mer rend libre », et qui a pour héros un jeune homme homosexuel qui est issu d'une famille d'origine algérienne. Merci Nadir d'avoir accepté mon invitation dans Jeans.
Merci beaucoup.
Pourquoi vous avez eu envie de faire du cinéma ?
C'est toujours un peu difficile et compliqué d'essayer d'expliquer pourquoi on a été vers le cinéma. Alors on peut s'inventer un mythe, une histoire en disant j'étais petit, j'ai regardé ceci, j'ai regardé cela. Donc j'essaie à chaque fois de mettre les idées au clair. Il y a une des causes, c'est que au tout début, je prenais des cours de théâtre pour devenir comédien et acteur. Et en passant les castings, je me voyais toujours attribuer des rôles qui ne me convenaient pas. Mais je voulais avoir d'autres rôles, d'essayer de sortir. À l'époque, on n'était pas dans le terrorisme, c'était les années 80, on était plutôt dans les dealers et des rôles comme ça. Ouais. Et donc, c'était une démarche un peu presque politique de se dire j'aimerais bien faire des films et montrer avec des personnages différents, sortir un peu des clichés habituels pour essayer de les montrer. Donc il y avait ça. Et il y avait, si on essaye d'élargir et de créer un mythe, il y avait la première fois que j'ai vu le film de Pasolini, Médée. Oui. J'étais en terminale et en cours de philosophie, anthropophagie. La professeure de philosophie, donc c'est important du lycée que les élèves aillent au cinéma, la professeure de philosophie, elle nous emmène voir Médée de Pasolini. Et là, pour la première fois, je découvre, on était loin de Louis de Funès. À l'époque, je voyais que des comédies. Et je découvre ça. Et à cette époque-là, il y avait dans ma famille une cousine de ma mère qui était séparée de son mari et qui était une véritable Médée. On avait vécu donc
alors, Médée, juste pour le public, c'était, pour capituler, c'est une sorcière,
une sorcière qui a été trompée par son mari, Jason, enfin, une histoire terrible. Et cette cousine était très imprégné par cette histoire. Donc ça m'avait, j'ai eu un choc, on va dire. Moi, j'avais fait le lien entre elle et tout ce qu'on a vécu ensemble avec elle, et puis le film. Et donc, je m'étais dit, et si je commençais par raconter des histoires algériennes et trouver des liens avec la tragédie, essentiellement avec la tragédie grecque. Donc, il y a eu Électre, que j'ai travaillé au théâtre, voilà.
En regardant Vive à l'Algérie, qui est un film formidable, qui s'ouvre sur une scène de sexe dès les premières 20 minutes, où on ne voit pas vraiment la sexualité, et qui plus est une scène durant laquelle l'actrice Lubna Azabal, qui est formidable, apparaît nue à l'écran. On voit le personnage qu'elle incarne, Goussem, qui nargue les spectateurs avec sa cigarette qu'elle fume. Et on voit aussi le corps de Fifi, la travailleuse du sexe, la prostituée, qui est jouée par Nadia Cassi, qui sort nue du bain aussi. Donc il y a deux nues en un seul film. C'est assez révolutionnaire pour l'époque. On est en 2003, de voir des corps féminins nus à l'écran comme ça. Qu'est-ce qui vous a donné envie de filmer la nudité et pourquoi c'était important pour vous ?
J'ai parlé beaucoup avec Nadia Cassi parce que d'abord c'était Nadia Cassi. Je lui avais demandé est-ce qu'elle accepterait d'être nue. Elle m'avait dit non. Il était hors de question qu'elle soit nue. Elle m'a demandé la raison. Donc je dis qu'il n'y avait pas de raison. C'était un acte militant, peut-être politique, d'essayer de voir le corps de la femme, le corps d'une Algérienne nue. Et donc on avait discuté pendant longtemps à propos de ça et de se dire est-ce qu'on franchissait le pas ou pas. Il y avait la sexualité chez Goussem, qui avait une sexualité qui existait bien sûr, mais qui était cachée. Je parle de la société. Et qu'est-ce qu'on allait faire avec cette sexualité ? Est-ce qu'on allait la cacher ou est-ce qu'on allait la montrer ? Donc il y avait un tas de questionnements sur la sexualité, le corps de la femme, Dans le harem de Madame Haussmann, par exemple, mon premier film, c'était Le corps de l'homme. C'était le personnage, un des personnages se mettait tout nu et s'offrait à Madame Haussmann. Donc là, il y avait une offrande, l'homme qui s'offrait à une femme. Et dans Vive l'Algérie, on a parlé de ça et on s'était dit qu'on allait peut-être franchir un pas et montrer le nu. Pour casser ce tabou. D'abord, le nu est un problème dans le cinéma en général. C'est-à-dire, quand on regarde le cinéma en général, il y a toujours la question du nu qui se pose. D'ailleurs, même quand vous faites un film et que vous engagez des acteurs et des actrices, s'il y a du nu, la question se pose. Alors, on fait quoi ? Est-ce qu'on le filme ? Est-ce qu'on le filme pas ? Il y a des acteurs qui refusent. Il y a des acteurs qui veulent un profil. Il y a des acteurs qui veulent pas de face. Donc, la question se pose. Pour les hommes, par exemple, ils ne veulent pas qu'on filme leur sexe. Donc, la question s'est toujours posée pour toutes les sociétés. Mmh. Et dans le cinéma, ça a toujours été la question du nu.
Bien sûr.
Chez Hitchcock, il n'y a pas de nu. Donc, ce n'est pas une nécessité. Mais nous, on s'était dit, voilà, on va essayer de casser un tabou et de montrer, est-ce qu'on a honte de nos corps ou pas ? Eh bien, on s'est dit qu'on n'avait pas honte et qu'il n'y avait rien de mal à les montrer.
Alors justement, encore dans Vive l'Algérie, le corps féminin libéré en nuisette de Fifi ou de Goussem boit du vin rouge, qui couche avec des hommes, qui fume des cigarettes. Il est à la fois à l'opposé et le même corps que cette jeune femme qui sort de chez elle, voilée la tête aux pieds, et qui circule dans les rues en Algérie, assez pudique, qui parfois croit en un romantisme. Il y a une sorte de dialectique, je trouve, entre ce corps qui est couvert et ce corps qui est découvert à chaque fois, entre le voilement et le dévoilement.
Je pense, dans nos sociétés musulmanes, la question de la femme, elle est primordiale, elle est essentielle, c'est-à-dire, c'est toujours le problème. Voilà, tous les conflits, on parle de ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a une évolution de la société? Alors, on va dire, vous êtes influencé par l'Occident. Est-ce qu'il y a une évolution ou est-ce que nos principes, la femme est recluse? Elle est cloîtrée. C'est-à-dire, on reste dans un schéma traditionnel et puis ancestral où la femme est recluse. Ou est-ce qu'il y a une évolution? Dans nos sociétés, là où on a tous des portables, on a tous des ordinateurs, on a tous des... Mais lorsqu'il s'agit de la question de la femme, il n'y a pas d'évolution. Mmh. Alors que tout le monde regarde TikTok, tout le monde regarde Instagram, tout le monde regarde du porno. Mmh. Mais lorsqu'il s'agit de la femme, non. En fait. Donc, l'idée, c'était ça. C'était d'essayer de changer quelque chose. Voilà, d'aller vers un... Enfin, le film est sorti en Algérie, il y avait des débats autour de ça, et c'était intéressant. Mais je comprends la question de la pudeur, je comprends trop bien, je suis tout à fait conscient qu'on garde une certaine pudeur. Mmh. Voilà, tout à l'heure tu parlais de Aura, moi je peux parler aussi de pudeur, mais en même temps, est-ce qu'il y a une évolution ou il n'y a pas d'évolution ?
Moi, je voulais aussi venir parler de la question ce qu'on appelle le male gaze, le regard masculin. C'est quand la caméra va susciter un plaisir visuel du spectateur de posséder le corps qu'il regarde et l'image devient donc assez tactile. C'est ce qu'on appelle la haptique au cinéma. Alors, le maître incontesté de ce regard masculin, on sait plus ou moins en ayant vu La vie d'Adèle ou Make to My Love, etc. C'est le franco-tunisien Abdelatif Kechiche. C'est pas forcément une fierté, hein. Mais alors, vous, comment vous avez fait en tant que réalisateur pour filmer ces corps nus sans vous placer dans une vision qui allait objectiver ce corps-là, qui allait le rendre objet de ce regard ?
Il y a la question du désir. Est-ce qu'on désire ce corps ou est-ce qu'on ne le désire pas ?
Oui.
Je pense que tous les réalisateurs et réalisatrices se posent la question du désir. Donc, est-ce qu'on le filme avec un désir sexuel ou un désir, ou est-ce qu'on le filme pour dans la situation ? Dans la situation, par exemple, là, en ce qui concerne Vive l'Algérie, c'était dans un contexte précis. Le nu de Nadia Cassis, c'était pour moi, c'est vraiment Vénus. Hein. Voilà, moi, oui. J'ai pensé à ça. J'ai vu Vénus qui sort de la salle de bain, c'est Vénus qui sort de l'eau.
Comme dans le tableau de Botticelli.
Il y a de la vapeur qui est très beau. Voilà, il n'y a rien d'impudique. Pour moi, il n'y a rien de vulgaire. C'est juste un corps beau, féminin qu'on voit. Donc, je pense que la question aussi se pose là. Est-ce qu'on a envie? Moi, j'aime pas beaucoup les scènes de sexe au cinéma. C'est vrai, j'avoue que je suis pas très... Parce que je me dis, il y en a trop. Maintenant, il y en a trop. Mmh. Avant, il n'y en avait pas. Maintenant, il y en a trop. Donc, j'essaye de réfléchir et de me dire quelle est la raison. Est-ce qu'il y a une raison ou est-ce qu'il n'y a pas de raison? Mais pour répondre à la question, c'est est-ce qu'il y a du désir ou est-ce qu'il n'y a pas de désir? Ou est-ce qu'il y a une fascination ou est-ce qu'il n'y a pas de fascination?
En tout cas, vous vous dites qu'on peut très bien voir la sensualité et même la sexualité à l'écran sans qu'on voit directement la scène de sexe. Outre le regard masculin dont on parlait plus tout à l'heure, donc du male gaze, il y a aussi généralement le regard blanc, le white gaze, qui regarde ces corps féminins, masculins, queer, vraiment dans une perspective qui parfois est un peu problématique sur comment on fantasme ces corps-là, selon un imaginaire qui est plutôt occidental. Est-ce que vous pensez que le cinéma peut aider et même arriver à décoloniser nos corps?
C'est difficile de porter un jugement parce que évidemment que on le voit quand le corps est fétichisé, évidemment on le voit. C'est-à-dire que s'il s'agit d'un film où on voit une prostituée arabe, la manière dont on la filme, la manière dont on la maquille, ne serait-ce que la manière dont on la maquille, est-ce qu'on va la tatouer ou pas? Pour moi, c'est très révélateur ça. Lorsqu'on lui met des tatouages, bien sûr, il y a aussi une forme de fantasme colonial. Est-ce qu'on est obligé tout le temps de la tatouer pour la filmer? Donc, je me dis que nous, c'est-à-dire nous, originaires de ces pays-là, on peut apporter un nouveau regard ou un regard différent sur la manière dont on filme les corps. Le problème aussi de ces corps-là, c'est qu'il y a un déficit d'image. Et évidemment, le peu d'image qu'on a, on est tous un peu focalisés. Mais il y a, c'est vrai qu'il y a il y a le fétiche. Le fétiche de la femme arabe, le fétiche du garçon arabe, la manière dont on le filme. C'est comme quand on voit ces images du XXe siècle, début du siècle, où on les voit avec des seins un peu à l'air, un turban, un tatouage, des choses comme ça. Et souvent, ce n'est pas des Maghrébins, souvent ce sont des Siciliens. Par exemple, pour les garçons, c'est souvent des Siciliens.
Et souvent, ce sont des personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans l'Orient dont ils parlent. En parlant de ce regard-là, selon vous, est-ce qu'il faut être algérien pour faire un film sur l'Algérie?
Alors, j'ai envie de citer un petit extrait de quand Shylock, dans Le Marchand de Venise, la pièce de Shakespeare, lorsqu'il a sa plaidoirie, il dit « Si vous nous piquez, est-ce que nous ne saignons pas? Si vous nous chatouillez, est-ce que nous ne rions pas? Si vous nous empoisonnez, est-ce que nous ne mourrons pas ?» Et Shylock, il dit ça pour revendiquer son humanité. Parce qu'il dit, je suis comme vous. Pourquoi je serais différent de vous? Je vais dire la même chose. Tout le monde peut parler de tout le monde. Voilà. Tout le monde peut parler de tout le monde. Après, est-ce qu'on se documente, on ne se documente pas? Est-ce qu'on a un regard différent? Est-ce qu'on n'a pas un différent? Après, la question peut se poser sur le regard du maître sur l'esclave. Le regard du dominant sur le dominé. On peut aussi poser cette question. Parce que si je prends l'exemple de la bataille d'Alger, ça a été fait par un Italien, Gilles Pontecorvo. Il n'y a pas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait quoi, 60 ans presque, il n'y a pas eu un film aussi beau qui parle de la bataille d'Alger ou qui parle de la guerre d'Algérie comme celui de Gillo Pontecorvo. Pourtant, il est italien, il ne parle pas la langue, mais il a fait un chef-d'œuvre.
Oui, c'est un chef-d'œuvre qui est quand même assez grandement problématique à bien des égards, qui a été assez critiqué aussi sur la question de la colonisation, sur la question du regard.
La censure française. Mais lorsqu'on le regarde, on voit très bien qu'il y a une forme d'objectivité, que vraiment, il n'y avait pas de quoi le censurer, parce que c'est pas idéologique, c'est pas pro-FLN.
Oui.
Il y a vraiment un regard sur la société telle qu'elle était à l'époque, et sur la bataille d'Alger, qui est très beau. Donc voilà un étranger, un Italien, qui fait un film et qui n'a jamais été égalé. Oui. Mais c'est vrai que le déficit d'image nous oblige à être un peu plus, à faire attention.
Oui, par exemple, vous parliez de Pasolini tout à l'heure, vous le citiez. Pasolini, c'est un grand génie du cinéma, on peut le critiquer ou ne pas l'aimer, etc. Mais il y a eu cet imaginaire des Mille et Une Nuits, c'est quelque chose qu'il a beaucoup travaillé. Donc,
c'est le plus beau film sur les Mille et Nuits.
Voilà.
Et pourtant, il s'est inspiré des Mille et Nuits. Parce qu'on peut dire, ah oui, Mille et Une Nuits, c'est pas ça, ça se passe pas comme ça. Et puis c'est pas comme là, non, c'est différent. Par exemple, dans les Mille et Une Nuits, chez Pasolini, les personnages masculins sont un peu débiles. Parce que tous les personnages masculins chez Pasolini sont un peu débiles. Et là, alors que dans les Mille et Une Nuits, ils ne sont pas débiles. Ils sont toujours intelligents, brillants, rusés. Mais c'est la touche de Pasolini.
Mais du coup, ça veut dire que Guillaume Canet peut pas faire un film sur l'Algérie, par exemple.
Bonne chance.
Voilà. Et alors, de la même façon, pour essayer de faire une espèce de parallèle un peu grossier, est-ce qu'on peut être un réalisateur hétérosexuel et faire un film sur une personne homosexuelle, mais sans commettre de faux pas.
D'abord, je pense qu'il y a un travail de base pour tout réalisateur, pour tout scénariste, c'est de se documenter. Par exemple, quand j'ai fait Le Lapater, c'est l'histoire d'une transsexuelle. Évidemment que j'ai pas, enfin, je suis pas arrivé comme ça sans rien. Donc, je me suis renseigné, j'ai demandé, j'ai questionné, j'ai essayé de comprendre. Et en même temps, j'ai essayé de comprendre, mais je ressentais la souffrance de quelqu'un qui était, voilà, c'est une souffrance humaine. Donc, je m'étais documenté pour essayer de comprendre. Et on avait fait tout un travail avec Fanny Ardant, enfin, pareil. Il y avait des articles de presse, il y avait des documentaires, énormément de documentaires qu'elle a vus, qu'on a revus et qu'on a essayé de comprendre pour essayer de faire, de construire le personnage. Est-ce qu'il faut tuer son père pour jouer Hamlet? Bon.
Moi, je vous pose la question parce que j'ai envie qu'on parle de votre prochain film, donc L'air de la mer rend libre. Je voudrais savoir vraiment votre cheminement dans la préparation de ce film. Comment vous avez pu aller vers ce personnage-là?
En ce qui concerne l'air de la mer rend libre, il y a une part autobiographique. Ce n'est pas autobiographique, mais il y a une part autobiographique. Il y a des bouts de ma vie que j'ai raconté dans le film. C'est essentiellement le rapport entre l'individu et la famille. L'individu, donc algérien, et le groupe et sa famille. C'est-à-dire, est-ce qu'il rompt avec sa famille ou est-ce qu'il ne rompt pas avec sa famille? Est-ce qu'il garde le lien avec sa famille? Comment peut-il, on va dire, dealer, mais j'aime pas le mot au terme, mais comment négocier avec sa famille? Pourquoi? Parce qu'on a peur de se retrouver seul. On a peur de la solitude et de se retrouver dans des conditions... Donc, on veut garder la communauté. On ne veut pas se séparer de sa propre communauté parce qu'on a peur. Donc, il y avait ce travail-là. Et j'ai travaillé, évidemment, aussi. J'ai regardé des documentaires, j'ai regardé tout ça pour essayer de comprendre aussi sur la situation actuelle au jour d'aujourd'hui.
Mais moi, ce qui m'intéresse aussi en termes de... Ne serait-ce qu'en termes de casting, parce qu'on parle beaucoup de représentation des corps, des identités, en particulier donc, si on parle de l'homosexualité, par exemple, souvent, on se pose la question aussi de la représentativité, c'est-à-dire non pas seulement de comment on représente le jeune homme homosexuel, par exemple, mais de qui va le représenter à l'écran. Et donc, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que seul un jeune homme homosexuel d'origine algérienne peut jouer un personnage de jeune homme homosexuel d'origine algérienne?
Ça peut arriver qu'un jeune homme d'origine algérienne homosexuel peut jouer le rôle d'un jeune homme homosexuel algérien. C'est possible. Mais le jeu d'acteur, c'est pas si simple que ça. Il y a quand même, moi, j'ai eu des jeunes gens qui sont venus se présenter vers le casting, qui ont dit « c'est ma vie ». C'est ma vie, je veux absolument le faire. C'est ma vie, je suis concerné. J'ai eu la même histoire avec mes parents. Mais ça ne fonctionnait pas. Ça ne marchait pas. C'était pas juste. Alors, probablement qu'il avait mis tous ses tripes et que c'était sa vie. C'était pas du pipeau, c'est vrai. Mais à la vue des essais, c'était pas juste. Donc, je ne pouvais pas. Alors, j'ai essayé de choisir ce qui me semblait à moi le plus proche, le plus juste et qui puisse parler au spectateur. Parce que le film, moi, je ne le fais pas pour moi. Je le fais pour le spectateur. Si le spectateur, il voit le personnage et ça ne le touche pas, ça ne sert à rien. Donc, parfois, dans le jeu d'acteur, il est préférable d'être un peu loin du rôle que d'être totalement investi. Parce que parfois, ça peut rendre fou.
Oui.
Mais on verra. Après, vous verrez le film, mais... je trouve que le choix de l'acteur est très très bien et qu'il a mis vraiment ses tripes et que ça a été. Mais tout ça pour dire qu'il y avait des gens, enfin des jeunes gens qui même m'ont écrit des lettres pour dire c'est ma vie, je veux montrer ma vie. Et il y avait des gens qui n'ont pas voulu le faire parce que ça les gênait intéressant.
Vous voulez dire des personnes qui sont dans la vraie vie hétérosexuelle et qui
ont dit qu'ils pouvaient pas faire ce rôle-là pour des raisons qu'on peut comprendre ou qu'on peut ne pas comprendre.
D'accord. Et alors, vous parliez de Le Lapater, justement, en 2017, pour rappel, pour tout le monde. Donc, c'est l'histoire de, comme je disais en introduction, de Zino, qui, après la mort de sa mère, se met sur les traces de son père et qu'il n'a pas vu depuis 25 ans, du coup. Et en le retrouvant, en fait, il retrouve une personne qui est une femme. Donc, on parle d'une femme trans, une femme transgenre, jouée par Fanny Ardant. Donc, la question que je voulais vous poser, c'est pourquoi vous aviez besoin ou même envie de raconter cette histoire? Et après, pourquoi vous avez choisi Fanny Ardant?
c'est toujours, j'essaie toujours de trouver un lien avec un peu ce qui m'est arrivé dans la vie, avec les scénarios, tout, toujours. J'habitais à Pigalle, j'étais en première année de droit. Si certains se souviennent, il y avait le procès Barbie. Mais à l'époque, pour les jeunes qui sont là, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas de retransmission, il n'y avait pas de podcast, il n'y avait rien. Donc il fallait être là. Si on voulait voir le procès Barbie, il fallait être là à 13h devant son écran de télévision. Et moi, je voulais être voir le procès. Donc je sortais de mon cours de droit et je courais et j'habitais Pigalle. Et il y a une dame qui travaillait en bas de chez moi, qui s'appelait Claudia, et qui me dit, Nadir, est-ce que je peux monter voir le procès Barbie parce que je ne peux pas aller chez moi. J'ai pas de télévision chez moi, dans mon studio. J'étais un peu surpris. J'avais un air condescendant en la voyant. Mais après, j'ai dit oui, ok, tu peux monter. Et à partir de là, on a sympathisé et j'ai connu sa vie. Et voilà, on a discuté, on est devenus amis. Et donc, ça s'est arrêté là. Et des années plus tard, il y a eu cette idée de Lola Pater.
Alors pourquoi Fanny Ardant ?
Alors Fanny Ardant, c'est tout simple, c'est que à l'époque j'avais pensé à Biuna.
Biuna qui d'ailleurs était actrice dans beaucoup de vos films avant, donc vous a accompagné. Voilà.
Et tous les dimanches j'allais déjeuner chez ma mère et puis je disais à ma mère, tu sais, Emma, je sais pas quelle actrice. Ma mère l'a dit, ne cherche pas. Il y a une seule actrice qui peut faire, c'est Fanny Ardant. Alors je me suis dit, ok, si c'est toi qui le dis.
Pour revenir à votre film donc, qui va sortir en 2023, est-ce que ça a été facile pour vous, déjà en tant que réalisateur confirmé, ça doit être votre sixième film, quelque chose comme ça, de faire produire votre nouveau film ? Est-ce que vous avez croulé sous l'or des aides financières ? Est-ce que vous avez eu une distribution
inondée, internationale ? Inondée voilà. D'argent. Alors, pour les esprits malveillants, parce qu'il y a quand même des esprits malveillants dans notre société, malheureusement. Ils vont dire, ah, mais homosexuel, arabe, le sujet, ça va attirer tout le monde, les télévisions françaises, les télévisions occidentales, tout le monde va s'y intéresser. Rien. Rien du tout. Dire, j'ai jamais autant galéré qu'avec ce film. Je n'ai jamais autant galéré. Mais jamais. Donc, pour répondre, il n'y a pas l'argent public, il n'y a pas des institutions, il y a la région Bretagne qui a donné l'argent et c'est pour ça que le film se passe à Rennes. On a tout délocalisé, ça se passe à Rennes et c'est très bien que ça se passe à Rennes dans une famille algérienne de Rennes. Ils tiennent une boucherie halal et tout le monde travaille dans la boucherie et c'était très bien. Mais pour répondre à la question, non. Il y a eu beaucoup de difficultés parce qu'il y avait, j'avoue moi aussi, j'étais un peu, j'étais naïf parce que je pensais que le sujet allait intéresser les gens. Il y avait une commission, j'avais dit aux gens de la commission, vous allez dans n'importe quel moteur de recherche sur Google et vous mettez gay, arabe, beurre, homosexuel et vous mettez images. Et vous allez tomber uniquement, grande majorité, sur des images pornographiques. Est-ce que vous trouvez ça normal que lorsque vous mettez gay, arabe, homosexuel, vous tombez sur des images pornographiques ? Vous mettez gay, français, cinéma, vous tombez sur les films de Ozon, de Téchiné, de Christophe Honoré, vous tombez sur plein de personnages. Donc je me suis dit, un garçon de 17 ans qui habite en banlieue, qui est dans des difficultés avec lui-même, qui essaie de trouver des images et tout ça, il tape sur son moteur de recherche, qu'est-ce qu'il a ? Du porno et dans les caves des cités, des choses comme ça, enfin bon. Donc, je parle de cette problématique et j'ai proposé, j'ai dit, bon, voilà, ce que je voudrais faire, c'est parler de quelqu'un. C'est pas un mec qui se prostitue, c'est pas un dealer, c'est pas un drogué, c'est un mec, on va dire, lambda, normal, et qui travaille avec ses parents. Et il se trouve que l'histoire est ainsi.
Oui, c'est vraiment, encore une fois, vous travaillez la question de la représentation, en fait, comment on représente la masculinité arabe autrement. Alors justement, cette masculinité arabe, souvent avec les autres masculinités racisées, donc de couleur plutôt, hein, parce que ça ne marche pas pour tout le monde, mais ça contraste avec une masculinité qui apparaît comme souvent dominante, c'est-à-dire, comme vous avez parlé des films d'Honoré, de Téchiné, d'Ozon, cette masculinité qui est un peu plus dominante, blanche, modérée, qui est perçue comme civilisée. Alors les sociologues ont appelé ça, à l'encontre de cette masculinité blanche hégémonique, ils ont appelé ça le garçon arabe, dont vous parliez tout à l'heure. qui est dépeint comme un homme peu éduqué, qui est un peu écervelé, un peu stupide, qui est souvent macho, qui est souvent violent. Parfois, on parle de la figure du blédard, du beurre de cité, etc. Vous, le personnage de Saïd, justement, dans votre film, il se déguise en racaille pour pouvoir avoir des rapports avec d'autres hommes. Alors, pourquoi ?
Alors, pour plaire, parce que il sait que lorsqu'il va se déguiser en racaille, il va mettre sa casquette, ses baskets, il va prendre un accent. Voilà, les portes vont s'ouvrir. Donc, c'est un moyen que je peux comprendre. C'est un moyen, c'est une technique comme n'importe quelle technique de drague. Donc, il choisit la technique qui rapporte le plus.
Oui, donc il se soumet malheureusement à un imaginaire de cette vision de l'homme arabe qui va en fait le rendre sexy et attirant du coup pour le regard d'autres hommes.
Le jeu, c'est un jeu pervers, c'est-à-dire que l'autre projette un fantasme et fétichise le personnage, et le personnage accepte cette fétichisation parce qu'il a un une contrepartie, il peut ainsi draguer. Donc on le voit dans le film se préparant, s'habillant, en faisant tout un numéro devant son miroir et puis sortir.
Oui, alors au passage, évidemment, un des sites pornographiques gays en France qui a le mieux marché s'appelle Cité Beurre, et il donnait à voir tous les scénarios possibles et imaginables en cité, de jeunes hommes en Sergio Tacchini avec des casquettes et des baskets Reebok ou Nike qui se baladent entre les murs délabrés de la cité et qui finissent par avoir une rencontre sexuelle. Et qui évidemment sont violents, évidemment parlent qu'en arabe, autour d'une chicha et d'une tante Kaïdal. Donc c'est vraiment l'imaginaire de ce garçon arabe.
Alors, moi je peux comprendre l'érotisme, la fétichisation, j'ai pas de dire « alors pourquoi pas ?» Mais en même temps, s'il n'y a que cette image-là, ça me gêne.
Oui.
Parce qu'il faudrait qu'il y ait d'autres images. Mais je peux comprendre, par exemple, c'est comme la blonde. Hein, voilà, oui. La blonde Marilyn, on va la fétichiser, c'est la blonde, c'est ceci, c'est cela, elle est conne, mais elle est, elle est sexy, elle est cela, bon, voilà. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi autre chose. Et pour le film de Saïd, c'est ça, c'est proposer une autre image. C'est pas supprimer les autres images, non, je ne veux pas faire de censure, c'est juste, il y a d'autres personnes qui existent aussi.
Oui, bien sûr, on peut évidemment avoir une sexualité qui est orientée vers certains types de fantasmes, dont celui-ci évidemment, mais de se fixer sur un seul fantasme, de dire par exemple « je n'aime que les beurres de cité dominants » ou « que j'aime que les femmes noires », ça devient une essentialisation, ça devient un problème. Et comme disait donc Frantz Fanon, donc très célèbre penseur, « ceux qui aiment les hommes noirs sont aussi dangereux que ceux qui les exècrent ». Donc, il y a vraiment cette dimension-là de domination qui peut exister, qu'on soit dans l'ultra-amour spécifique ou dans une haine spécifique. Alors, c'est aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure très bien, un film qui s'annonce magnifique par rapport à l'imaginaire de la famille, la définition de la famille, issue de l'immigration algérienne, musulmane, mais bien française aussi. Vous parlez d'une boucherie, toute la vie de famille se passe assez bien, il n'y a pas de dysfonctionnement a priori au départ. Alors comment vous arrivez à traiter le sujet de l'homosexualité dans cette famille sans que les spectateurs et spectatrices puissent pointer du doigt forcément l'origine ou la religion comme étant unique vecteur d'intolérance vis-à-vis de l'homosexualité?
Certains vont le penser. Mais alors moi, je souris toujours un peu parce que l'évolution de la société française, on la connaît tous. Alors maintenant, évidemment, si on est bobo, habitant le 10e arrondissement, c'est sûr que pour eux, mais on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette famille est intolérante? Encore une fois, quand j'ai passé l'entretien pour essayer d'avoir des sous, on me dit mais ça n'existe pas. Donc le type en face, donc c'est sa parole contre la mienne. Le type qui habite semble-t-il, c'est un écrivain, il habite le 7e arrondissement. Ok, non, cette situation ne peut pas exister en 2023. Je peux habiter dans le 10e arrondissement sans même savoir ce qui se passe à côté. Donc forcément, on va pointer, on va dire c'est la religion alors qu'ils sont pas pratiquants, c'est la tradition, c'est la coutume. À chaque fois que j'essaie d'aborder un problème, j'essaie toujours de me mettre dans la peau de tous les personnages. Donc je me suis mis dans la peau de la maman et du papa. Je peux comprendre, J'aurais du mal à accepter. Je me dis, mon fils essaye de réfléchir ou ma fille essaye de réfléchir un peu avant de passer de l'autre côté.
Oui, après, c'est peut-être un passage qui n'a jamais été d'un côté ou de l'autre. C'est juste que la personne est comme ça. Mais est-ce que vous avez eu cette volonté de montrer que ce n'était pas forcément spécifique à cette famille-là parce qu'elle était musulmane?
Non, moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est le... C'est sa psychologie, donc, à lui. C'est-à-dire que sa difficulté à s'émanciper ou à accepter. C'est-à-dire de se dire, qu'est-ce qui je suis? Comment je vais vivre les 10, 20, 30 prochaines années? Est-ce que je vais vivre caché, discret? Est-ce que je vais me marier, faire semblant? Pour moi, le film questionne son personnage, donc, à lui. Et après, par rapport à sa famille, voilà, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Il y a le joug, certes, mais c'est un joug psychologique.
Est-ce que ce n'est pas eux aussi, en tant que parents ou en tant que famille, de prendre leurs responsabilités par rapport à ça?
Bien sûr. Moi, dans le film, ils le savent très bien. Ils organisent tout ça, le mariage. Ils se marient avec une fille qui va mal aussi parce qu'elle est de Marseille, qu'elle fréquente un dealer, et que la mère aussi de l'autre côté se dit, bon, je vais me débarrasser parce qu'elle est vraiment, j'ai peur que ma fille devienne voyoute, et voilà, je vais m'en débarrasser. Donc les mamans entre elles se téléphonent et se disent, bon, écoute, je te donne mon fils et tu me donnes ta fille, on va essayer de régler tout ça pour essayer de les sauver. Voilà, c'est comme ça.
Oui, c'est un arrangement. Donc, ils sont finalement des pions sur un échiquier.
Voilà. Et eux vont s'aider tous les deux mutuellement. Elle et lui vont essayer un peu pour essayer de sortir, de comprendre et puis d'accepter, d'essayer de devenir des individus, de se dire on n'est pas simplement un maillon d'une chaîne. On peut exister en tant qu'individu. Voilà. Et puis après, de dire les choses sont comme ça. Qu'est-ce qu'on fait alors?
En parlant de cette notion qui pour moi est éminemment politique, parce que dans Jeans, j'ai toujours clamé haut et fort que l'intime était par nature intimement politique, est-ce que vous pensez qu'au-delà de l'enjeu esthétique du cinéma, est-ce que le cinéma a un pouvoir sociopolitique de changement des mentalités? Est-ce que même il a un pouvoir politique tout court?
J'espère bien qu'on essaye de changer les choses. Alors après, oui, c'est ce qu'on appelle le soft power, je crois, non? C'est ça, c'est-à-dire... Moi, je prends toujours l'exemple du cinéma iranien. Parce que c'est quand même... L'Iran est un pays ostracisé, enfin un pays compliqué. Mais par leur cinéma, ils sont arrivés à nous montrer leur humanité. Quand on voit un film iranien, on est proche d'eux. Et pourtant, c'est une société qui est tellement loin, séparée, il y a des... Donc, ça a un pouvoir énorme, énorme. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a de la censure, qu'on coupe des images, qu'on interdit des films, qu'on interdit des scénarios. C'est parce qu'on se rend compte que l'image est très importante et qu'elle peut avoir une influence. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le jeune homme de 17 ans qui essaye de regarder un film. Qu'est-ce qu'il va regarder sur Google? Qu'est-ce qu'il ne va pas regarder? Donc, s'il regardait un personnage positif, ou en tout cas un personnage qui essaie de se battre, ça peut lui donner des forces de se dire, bon, voilà. Mais c'est vrai que les films italiens, les films néo-réalisme italien m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup influencé sur mon esthétique, mon mode de vie, mon rapport au monde, mon rapport aussi à mon pays, la Méditerranée. Donc, il y a eu une influence terrible sur moi. Que ce soit des films de Fellini, que ce soit les films de Rossellini,
Oui, c'est vrai que quand on voit Rome, ville ouverte, on peut très bien transposer ça.
Les rapports de famille dans les cinémas italiens, que ce soit le bel Antonio, par exemple, que ce soit... Il y a eu un cinéma fantastique en Italie.
Mais c'est vrai qu'effectivement, en voyant aussi le cinéma iranien de quelqu'un comme Jafar Panahi, on voit que la société, elle est sclérosée de l'intérieur, mais il parle de ces choses-là. Il est souvent très censuré, il est souvent enfui à l'autre bout du monde et il revient, il repart. Et bon, là, il a été encore emprisonné, mais il y a vraiment cette question-là très forte de comment on peut avoir un impact des histoires qui sont vraiment vécues par les peuples, en fait, locaux.
Ils ont mis de l'humanité dans leur histoire. Oui. Par exemple, Le diable n'existe pas. C'est un film magnifique. Il met de l'humanité dans ces personnages-là. Et c'est pour ça qu'on se sent très proche. Je pense que tout le monde, n'importe quelle personne dans n'importe quel pays, il peut s'identifier à un personnage iranien.
Oui. dans le cadre de l'exposition formidable qu'on a actuellement à l'Institut du Monde Arabe, donc Habibi, les révolutions de l'amour, je voulais vous demander, elle ressemble à quoi votre révolution de l'amour?
Ma révolution de l'amour. Ma révolution peut être le plus proche de ses sentiments, le plus sincère.
La sincérité.
La sincérité, son rapport à son partenaire, la sincérité. Alors, il y a le grand amour, il y a le petit amour, voilà, tout ça, c'est beaucoup de littérature aussi, hein, et du cinéma. Mais je pense que c'est une forme de sincérité.
Alors, on va conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, vous le savez toutes et tous ici, parce que vous connaissez Jeans par cœur, je sais, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Alors, l'une des choses qui revient le plus souvent dans les commentaires désobligeants que je reçois sur mes épisodes qui défendent les personnes queer LGBTQIA+, dans le monde arabe, c'est la phrase suivante. Tout le monde sait qu'il n'y a pas d'homosexuels en Algérie, ni au Maroc, ni en Tunisie d'ailleurs. Ça n'existe pas. Ce n'est que la mauvaise influence de l'Occident. Qu'est-ce que vous aurez répondu à ma place?
Moi, je demande pourquoi c'est pénalisé. Si ça n'existe pas, ça ne devrait pas être pénal. Donc, on ne devrait même pas en parler. Donc, en Algérie, je crois que c'est 20 000 dinars, ou 30 000 dinars. Si on vous chope, c'est ça, non? Et puis au Maroc, je ne sais plus. Au Maroc, on va en prison.
On va en prison, effectivement. Oui. C'est les mêmes lois.
Mais alors, si ça n'existe pas, il faut enlever les lois.
Ces lois-là ont été instituées depuis l'après-colonisation, au Maroc, en Algérie évidemment, en Tunisie, au Liban. Les amendes et les peines de prison ont été spécifiquement insérées dans le code pénal pour chacun de ces pays-là, mais vraiment au centime près par rapport aux francs à l'époque et aux condamnations qui se ressemblent beaucoup. Mais dans le reste des pays du monde arabe, les condamnations ne sont pas les mêmes du tout. Alors, il y en a qui ne le condamnent pas. Par exemple, en Égypte, il n'y a pas de loi contre l'homosexualité. Pourtant, c'est un des régimes les plus répressifs contre ça. Il y a des chasses aux sorcières tout le temps, etc. Donc, en fait...
Il y avait des descentes...
Il y a des descentes de flics qui vont sur les applications de rencontres et qui vont, du coup, tuer ou... Je vous passe les détails de l'horreur qui se passe, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas institué par une loi coranique, il n'y a aucun passage dans ça, ce n'est pas institué non plus par des lois qui seraient faites dans l'histoire, c'est juste en fait un patriarcat qui est resté longtemps et un colonialisme qui est passé par là. Mais donc effectivement, l'argument de la loi, si elle existe, c'est bien qu'ils existent aussi. Très bien, alors merci beaucoup Nadir d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci beaucoup.
Merci. Bien, merci.
Vous pouvez donc retrouver Jeans en ligne gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute de votre choix, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Vous pouvez aussi suivre l'actualité de Jeans sur Instagram, @jeans-podcast. Voilà, à la semaine prochaine dans Jeans.